Il faut, pour entrer un peu dans la métaphysique, comprendre que l'éveil de l'intelligence, de notre intelligence, se fait à partir de l'expérience. Alors, avoir toujours devant en soi ce cheminement d'une connaissance qui est d'abord vis-à-vis de nos activités. Nous sommes le centre de l'activité artistique. Parce que c'est quelque chose qu'on fait. Et on a toujours un lien très fondamental à ce que nous avons fait. La connaissance du sujet, la découverte de la personne. Bon, la découverte de notre personne, elle se fait d'abord par le facere. Et c'est très important, ça. Il faut, au point de vue philosophique, on ne peut pas abandonner ça. Parce que vous comprenez que ce facere va être le gardien du réalisme. La science, telle qu'on l'entend aujourd'hui, n'explique pas le point de vue artistique. Et dans la mesure où la science se développe et qu'elle veut prendre possession du point de vue artistique, c'est la mort de l'art. Ça devient la technique. Et c'est la méthode qui l'emporte. Vous voyez ? Et on ne regarde plus que les défauts par rapport à la méthode. Vous n'avez pas bien appliqué le système. C'est pas du tout facturé. Je crois que c'est très très important de sauver le point de vue premier de l'éveil de notre intelligence. Ce point de vue premier de l'éveil de notre intelligence nous donne le sens de la matière. Ce qu'on utilise, ce qui nous est donné quand nous venons au monde, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant nous. C'est sûr. Il y a le monde matériel d'abord. La mer, la montagne, l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est dit quelque chose. On s'en rappelle quand on voit les fortes chaleurs qui ont été auprès de nous et quand subitement on retrouve le froid, les choses. Et qu'est-ce que l'homme peut faire là-dessus? Le milieu dans lequel nous vivons, il existe très fort. Et plus on avance, plus le milieu est fait par l'homme. Vous voyez, la ville. La ville, c'est fait par l'homme. Tandis que la mer, c'est pour ça que les Bretons ont toujours un certain réalisme et qui vient du fait même qu'ils ont été habitués à voir la puissance de la mer, la puissance de quelque chose qui est en dehors d'eux. Et ça, c'est beaucoup d'avoir vécu en face des forces de la nature. Quand on est élevé dans la ville, et uniquement dans la ville, on ne le voit pas. Tout provient de la force de l'homme. Tout provient du facere humain. On n'a pas le point de vue de la matière on n'a pas la connaissance de la matière. Et je crois ça très important, parce que la philosophie, justement, s'intéresse beaucoup au point de départ de l'homme. Comment s'éveille notre intelligence ? Posez-vous la question vous-même, hein ? Comment s'éveille votre intelligence ? Comment cette intelligence s'est éveillée petit à petit ? Alors, première connaissance, qui a été complètement oubliée par la scolastique. La scolastique, mais quand je suis arrivé à Fribourg, donc c'était une... Fribourg était une université qui avait un souci de respecter la pensée de saint Thomas. Ceux qui ont fondé Fribourg. Eh bien, le point de vue du facere, le point de vue de l'activité artistique, de l'activité artisanale, tout ça ne regardait pas la philosophie. La liturgie ne regardait pas la théologie. Il y avait un abandon. On laissait les artistes. Ce sont des gens intouchables. Vous laissez. On ne voit pas que l'activité humaine a pris naissance là. Nous sommes des êtres complexes. Nous avons un corps. Et notre corps a un poids tel sur la connaissance que le point de départ de la connaissance est lié tout simplement à nos expériences de la réalité qui est autour de nous. Vous voyez, je me pose la question, parce que c'est un des points qui est mis aujourd'hui en doute, puisqu'on critique tout. Donc, la recherche des causes. On dit, mais pourquoi rechercher les causes ? Je dis, mais quand on regarde le développement de la philosophie depuis les Grecs, le développement de la philosophie tel que saint Thomas l'a respecté, et ce n'est pas parce que saint Thomas l'a respecté que je le respecte. Ce ne serait pas philosophie, ça. Ce serait très bien, très louable de respecter saint Thomas. Mais ce n'est pas ça qui est le principal. Le principal, c'est d'être vrai dans le monde dans lequel on est. D'être vrai. J'aime saint Thomas parce qu'il me permet de découvrir certaines choses. J'aime Aristote parce qu'il me permet de découvrir certaines choses. J'aime Aristote parce qu'il a été terriblement autonome, libre de Platon. C'est pas commode d'avoir été 20 ans élève de Platon. Faut pas l'oublier. C'était 20 ans dépendant de notre monde d'aujourd'hui. De notre monde mathématique. On a été pendant 20 ans dépendant de ça. 25 ans, 30 ans, et puis on entre dans la communauté de Saint-Jean, on vous fait faire de l'Aristote. Mais pourquoi ? Parce que Saint-Thomas l'a fait. Mais pourquoi Saint-Thomas l'a fait ? Vous voyez, soyez vrai et comprenez. Alors, il y a l'attitude religieuse, très bien, je suis religieux, on me fait faire des cours sur Aristote, une métaphysique complètement périmée, je fais ça. Alors, c'est la réflexion, justement, des grands savants par rapport à Rome. Rome, c'est un musée. Donc, la communauté de Saint-Jean, c'est un musée. On garde Aristote. On mettrait le buste d'Aristote. Mais alors, pourquoi qu'on garde Aristote? Ah, il y a l'encyclique du pape. Oui, très bien. On est dans la commune, on entre dans la communauté de Saint-Jean pour être un bon chrétien. Très bien d'être obéissant au pape. Très bien. Mais c'est pas suffisant. Je ne peux pas faire de la philosophie uniquement par devoir, par obéissance. Je dois arriver à comprendre que l'éveil de mon intelligence dans ce qu'il a de plus profond désire connaître pourquoi l'interrogation. C'est l'interrogation qui vous rend intelligent. De poser la question pourquoi. Pourquoi faisons-nous de la métaphysique alors qu'on n'en fait plus autour de nous? Alors, où nous sommes des entêtés, où nous sommes obéissants au pape, c'est déjà mieux. Mais si nous sommes obéissants au pape et que nous voulons être des personnes humaines, c'est pas suffisant. L'obéissance au pape est très bien pour le chrétien, mais pour l'homme. Si je ne mets que l'obéissance au-dessus de tout, or, on faisait de la scolastique pour être obéissant. On savait qu'on se coupait complètement de la pensée. Et c'est pas suffisant dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pas suffisant d'être obéissant intellectuellement. C'est pas suffisant. C'est très beau. C'est très bien comme moine d'être obéissant. Mais nous avons une mission d'être témoins du Christ. Pas seulement d'être un moine retiré dans le monde. On construit notre maison. Et puis on dit les autres, ils se damnent. Et puis on construit notre maison. Obéissance. Obéissance. Aujourd'hui, la suprême calomnie qu'on dit, c'est « vous êtes désobéissants ». Mais en quoi? Nous faisons de la philosophie. Et nous voulons en faire. Pourquoi? Pour la théologie. Or, la théologie, évidemment, le pape intervient avec autorité. Obéir au pape, au point de vue surnaturel, c'est très bien. Or, le pape a écrit une encyclique que j'ai beaucoup de peine à comprendre, pour vous, je dis ça. J'ai beaucoup de peine à comprendre. Je la comprends très mal, mais après tout, le pape est avant moi. Je fais partie des anciens que je respecte. Il a son mot à dire. Puis, il est quand même infaillible. Quand il écrit qu'une encyclique, c'est pas n'importe qui l'écrit. Donc, ça me suffit. En tant que moine, ça me suffit. L'autorité du pape me suffit. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose de dire que l'autorité du pape me suffit. Il me demande d'avoir une philosophie aristotélicienne, c'est-à-dire réaliste. Il dit que la foi veut une philosophie réaliste, parce qu'elle ne peut, la théologie ne peut exister, c'est-à-dire utiliser cette philosophie que si elle est réaliste, parce que la foi est réaliste. Elle adhère à Dieu, à la parole de Dieu, à la révélation. Et Dieu révèle ce qu'est le monde, ce qu'est l'homme. Et il faut une philosophie réaliste pour être au service de ma foi. Je veux aller plus loin. Et je dis, la formation monastique dans le monde d'aujourd'hui, je dis bien dans le monde d'aujourd'hui, c'est la différence avec le Moyen-Âge. Dans le monde d'aujourd'hui, pour ne pas me couper complètement du monde, je dois être un témoin du Christ pour le monde d'aujourd'hui. Non pas pour le Moyen-Âge, mais pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde d'aujourd'hui exalte une philosophie qui va dans tous les sens. Depuis le XIVe siècle, cette philosophie va dans tous les sens. Elle va très loin dans la négation. C'est le philosophe de la négation et de l'exaltation de la négation. Il faut nier pour être quelqu'un. Vous voyez, ça va très loin. Je vois la réaction d'un religieux, de Saint Jean, relevant la réaction que quelqu'un lui a dit quand le petit gosse a nié, a dit à sa mère « Non, je ne ferai pas ça. » Ce petit gosse, à ce moment-là, montre qu'il est libre. Alors, très bien. Le père peut trouver que c'est très bien d'avoir dit non à sa mère, parce que, comme il le dit lui souvent, et que le gosse le dit, exalter cela, la négation de l'enfant. Alors qu'au fond, c'est assez terrible. Le premier moment où le gosse dit non à sa mère, c'est le premier péché. Ève a dit non à son père, à Dieu. Le péché, c'est dire non à Dieu. Et donc, dire non à son autorité maternelle, c'est effrayant. Alors, que peut-être, en disant non à l'autorité maternelle, on doit faire donc tout de suite grande attention, parce que c'est grave, et on ne doit pas laisser l'enfant dans le non, comme si le nom était très bien. Le père a félicité l'enfant en face de sa mère. Ah, tu fais, c'est bien. Tu te libères de ta mère. Et tu commences à être quelqu'un. Alors, est-ce qu'on commence à être quelqu'un quand on nie l'autorité? Oui. On est devant ces problèmes-là aujourd'hui. Et celui qui disait ça était très bien. Et celui qui l'écoutait était très bien. Avait absolument le désir de dire la vérité. Et tombé dans le panneau, le primat de la négation. Mais c'est du Sartre. Et c'est la négation de Dieu. Et on est en face d'un monde qui se révolte vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est le pain quotidien. Et c'est le pain quotidien qui pénètre jusque dans l'Église. Comment voulez-vous être croyant si on exalte la négation ? C'est impossible. Croire, c'est l'affirmation. C'est dire oui à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Je n'ai rien compris à ce qu'il dit, mais il me dit quelque chose, je crois. Vous voyez ? C'est très important, cette chose-là. Pour moi, personnellement, je crois que le primat des négations, c'est ce qu'on peut appeler la modernité. C'est-à-dire que tout est renversé. Anciennement, chez les Grecs, je prends le berceau de notre philosophie, l'affirmation est considérée comme première. Dire oui à l'autorité paternelle et maternelle, c'est quelque chose de grand. C'est un éveil de ma personne. Ma personne s'est éveillée dans l'affirmation et non pas dans la négation. Je prends ça à titre d'exemple, hein, parce que nous vivons dans un monde où la négation devient première. Nous devons être tout de même très attentifs. Nous faisons de la philosophie par obéissance au pape, oui, parce qu'on est moine. Mais on fait de la philosophie aussi pour maintenir le dialogue avec l'homme, quel qu'il soit, il est homme. Et je veux le réveiller comme homme. Je veux lui faire comprendre sa grandeur d'homme. Comme je suis devant un monde qui a rejeté en grande partie la foi, la France paye une mission. L'Europe paye une mission. Tu peux le dire. Donc, elle qui a été d'abord catholique, qui a reçu la foi en premier lieu, la rejette. Alors, je peux très bien me dire, tant pis, je me fais ermite. Je n'ai aucun contact avec le monde. Mais ce n'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est d'aimer ce monde, c'est d'aimer ces hommes et essayer de leur rappeler le point de vue positif qu'il y a en eux pour montrer que la foi me permet d'aller plus loin que ma simple réflexion philosophique, mais que la foi réclame cette réflexion philosophique pour pouvoir me montrer l'unité de ma vie profondément. Si je montre le primat de la négation, je n'aurai jamais d'harmonie entre ma pensée humaine, philosophique et ma foi. La foi commence par le oui. La foi chrétienne, Marie, à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Ben, c'est un oui. Alors que si votre développement intellectuel et d'abord par un non, voyez bien, vous avez le développement philosophique de la négation qui vient de plus en plus important. Et puis, je suis chrétien, je ne sais pas trop pourquoi, je dis oui, Oui, parce que c'est Dieu. Mais Dieu, il se sert des hommes, il se sert de l'Église, il se sert du Christ. Ah. Dieu me sauve en me demandant de sauver l'homme. Ah, c'est curieux. J'ai la charge de sauver l'homme. Je n'ai pas le droit de laisser l'homme se perdre et d'augmenter la distance entre ce qu'il considère être sa philosophie et la foi. Ma charge de témoin du Christ dans ce monde d'aujourd'hui, c'est donc d'essayer de voir au plan philosophique comment je peux développer mon intelligence. Et comment mon intelligence, sur la route de son développement, s'est fourvoyée. Elle s'est laissée prendre par le primat de la négation. Parce que c'est vraiment ce primat de la négation qui est à l'origine de toutes les déviations. Et vous le voyez aujourd'hui d'une façon criante. Alors, pour pouvoir sauver mon intelligence, il faut que je la prenne à son point de départ. J'essaie de découvrir le développement de mon intelligence. Puisque le développement de mon amour dépend du développement de mon intelligence. Si je mets le primat sur la négation, je mettrai le primat sur la haine. Et c'est très vrai que la haine, de temps en temps, peut engendrer un amour. Mais si la haine engendre l'amour, ce n'est pas la haine qui l'engendre, c'est l'homme qui étouffe par le primat de la négation et peut arriver à retrouver quelque chose de positif, l'amour. Quand vous mettez le primat de la négation pour l'intelligence, vous voyez que la seule manière d'en sortir, c'est l'amour. L'amour est positif. Tant qu'on n'a pas aimé, on est dans la négation. Et tant qu'on est dans la négation, on rejette la foi. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont plongés, je dis bien, ceux qui sont plongés dans la science moderne, dans la philosophie moderne, et qui ne voient que le primat de la négation, la seule manière de les faire sortir, c'est par l'amour. L'amour est positif. Et c'est vrai, je crois. L'exemple que je vous disais, quand vous voyez un communiste forcené et qu'il a une épouse et qu'il a des enfants, parlez-lui de son épouse et ses enfants. Et demandez-lui s'il aime son épouse, s'il l'a aimé, s'il aime ses enfants. Pour montrer qu'il y a autre chose que cette dialectique d'opposition du primat de la négation. Il y a quelque chose. C'est important pour nous de comprendre cela. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire. Retrouver ce primat de l'intelligence. L'intelligence, quand elle accepte le primat de sa connaissance, c'est l'expérience. qu'est-ce qu'il y a de premier, de positif dans ma vie intellectuelle, c'est de reconnaître les réalités qui sont autour de moi et moi-même. Ceci est. C'est la première affirmation. Et l'intelligence pose des questions. Et il y a eu cette découverte d'Aristote. C'est pas parce que j'ai d'Aristote, c'est parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental de se poser la question pourquoi. Tout repose sur cet éveil de l'intelligence. Le prima, c'est l'expérience. Et cette expérience elle-même, quand elle est profonde, pose la question du pourquoi et du comment. Donc, l'éveil de l'intelligence se fait par l'interrogation. Et l'interrogation, si on y réfléchit, c'est la recherche de ce qui est à l'origine de cette réalité. Pourquoi ? Pourquoi l'homme ? Pourquoi ? Et nous avons alors la découverte des différents pourquoi. Et la philosophie, c'est d'être attentif à ces pourquoi. Donc d'être attentif à ce que l'intelligence par elle-même réclame des réponses. Pourquoi ? Alors vous avez le pourquoi matériel, en quoi c'est fait. Et quand vous voyez quelque chose d'important, vous voulez voir en quoi c'est fait, le toucher. Est-ce que c'est du verre ? Est-ce que c'est de l'acier ? Est-ce que c'est du bois ? En quoi c'est fait ? Est-ce que c'est de la terre ? Est-ce que c'est de la pierre ? Et quelle pierre c'est ? En quoi c'est fait ? Puis, la question, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, les différents pourquoi ? En quoi c'est fait ? Qu'est-ce que c'est ? Comment cette réalité est arrivée ? Comment elle a été faite ? Et pourquoi ? Finalité. Vous avez les quatre grandes interrogations auxquelles s'ajoute une cinquième sur le modèle de quoi ? Parce que l'imitation est tellement liée à la fabrication, nous sommes attentifs à ce qui a été fait avant nous. Et donc, nous sommes attentifs au modèle. Nous avons donc cinq grandes interrogations. Ça, c'est capital d'y revenir constamment. La première interrogation, quand il s'agit justement de la métaphysique, de l'être en tant qu'être, en quoi l'être est fait ? Il est fait parce qu'il est être. Donc, il n'y a pas de question en quoi est l'être. L'être, il est. C'est curieux que la question en quoi c'est fait n'est pas une question première, radicale. Pourquoi ? Parce que, à propos de ce qui est, en quoi c'est ? C'est fait, ce n'est pas premier. Elle est. Qu'il n'y ait pas d'interrogation de la matière par rapport à la réalité, par rapport à la métaphysique, qui se pose la question au point de vue de l'être, c'est la réalité, j'interroge, qui elle-même échappe à cette interrogation. C'est très étonnant, ça. Ça, on peut rester longtemps à y réfléchir. Que, en métaphysique, l'interrogation en quoi c'est fait, en définitive, je répondrai dans une vision de sagesse, c'est pas étonnant, parce que quand vous touchez ce qu'est la réalité dans son être, vous êtes obligé de remonter à Dieu. Dieu seul fait une réalité dans son être. L'homme accepte ce qui est fait avant qu'il n'intervienne. L'homme intervient toujours à l'égard de ce qui est déjà fait pour ajouter certaines choses. Mais donc, au plan métaphysique, puisque je regarde l'être en tant qu'être, il n'y a pas de recherche de la matière. Et ça, c'est très intéressant. La matière se venge. C'est métaphorique de dire ça. Parce que la matière, elle ne se venge pas. Parce qu'on l'a négligée. La métaphysique, on va vouloir regarder ce que de la matière. D'où ces fausses métaphysiques, ces métaphysiques de la matière. Et on est, nous, en présence de ces fausses métaphysiques, les métaphysiques de la matière. Le communisme, athée, le marxisme, puisque c'est lui qui est philosophique, a voulu être une philosophie de la matière. Il n'y a pas de philosophie de la matière, de métaphysique. Parce que ce qui est, en tant qu'il est, ce n'est pas le mouvement. Il est. Et en tant qu'il est, il échappe à la matière. Pourquoi ? Parce que la matière, c'est la source de tout devenir. La matière, c'est quelque chose qui n'est pas et qui demande à devenir, mais qui devient par le mouvement et dans le mouvement. La matière est source de tout mouvement. Partout où il y a matière, il y a mouvement. Mais au-delà du mouvement, la chose est. Et il n'y a pas, donc, de recherche de la matière au point de vue de ce qui est en tant qu'il est. Ça, c'est la première évidence qu'on doit avoir. Et ça, c'est très important. La première évidence qu'on doit avoir, c'est qu'il n'y a pas de recherche de la cause matérielle au plan métaphysique. Et la matière est comme négligée chez le métaphysicien. La métaphysique commence au-delà de la matière, ce qui est. Et ce qui est purement en tant que matière, il n'est pas. Il peut devenir quelque chose, mais en tant qu'il est matériel, il n'est pas. Il est en pure puissance. Et donc, la métaphysique commence par la recherche de la causalité formelle, ce qui est déterminé. Quelle est la première détermination dans l'ordre de l'être? Il faut comprendre cette interrogation. Cette interrogation, elle a commencé d'exister avec Aristote. Tous les philosophes avant n'ont pas posé la question comme ça. C'est l'interrogation qui oriente notre intelligence dans un sens. Et quand l'intelligence n'est pas orientée, elle ne cherche pas, elle ne veut pas chercher. Mon intelligence est très souple. Je veux savoir ce qu'est l'être en tant qu'être, ce qu'il est dans cette détermination. Et je recherche alors toutes les déterminations, elles me sont données par les catégories, c'est-à-dire dans mon langage, je me pose la question de la qualité, de la quantité, très simplement, parce que c'est ce que je vois autour de moi. Toutes les déterminations accidentelles, toutes ces déterminations présupposent un premier. Donc, elles ne sont pas premières. Elles sont ordonnées en premier. Et c'est la première découverte. C'est par l'attribution du langage que je me pose la question, qu'est-ce qui est premier dans les déterminations des réalités que je vois? Et je vois que les réalités que voit l'homme, moi-même, la première réalité, est-ce que c'est le poids? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est l'agilité? Est-ce que c'est le mouvement? Non. Je suis autre chose que cela. Qu'est-ce que je suis? Profondément. Voyez, la première interrogation, qu'est-ce que je suis profondément? Ce que je suis profondément, c'est-à-dire en premier lieu, c'est d'exister. J'existe. Je suis. Mais quand je dis je suis, j'affirme quelque chose qui est en moi, premier en moi, mon être, ma détermination fondamentale. Toutes les déterminations secondes, la qualité, les qualités, je suis intelligent, je suis amoureux, je suis capable de faire telle ou telle chose, j'agis. Tout cela est accidentel. J'arrive à découvrir toutes les déterminations secondes. Je vois que l'être se dit de multiples façons. Il se dit par la qualité, il se dit par la quantité, par le poids, il se dit par l'activité, il se dit par la passivité, il se dit dans une manière particulière où je me tiens, où je suis, où j'existe. J'énumère toutes les déterminations qui sont autour de moi. On appelle ça les 10 prédicaments, c'est-à-dire les 10 prédicaments, les 10 attributions à moi-même. Donc la philosophie, c'est me regarder sous toutes les coutures. C'est regarder l'autre sous toutes ses coutures. Et puis se poser la question, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la détermination? C'est ça qui m'intéresse. Je m'aperçois que ce qui est premier dans la détermination, c'est le sujet. Je suis. Je suis de telle taille, de tel poids. Je suis intelligent, j'aime. Il y a quelque chose qui est plus profond, plus radical que toutes les déterminations, c'est le sujet. C'est moi. Tout ça m'est attribué. Je reçois toutes ces attributions et mon sujet, il est au-delà de toutes ces déterminations. Il est capable de les recevoir. Je vois que dans ces déterminations, il y en a qui sont très accidentelles. La couleur de mes cheveux, c'est très accidentel. Ma taille, très accidentelle. C'est très important quand je suis dans la foule. Si on est grand, on dépasse tout le monde d'une tête. Mais dans la foule, et c'est pour ça que si je commence à raisonner uniquement globalement, ce qui est le plus important, c'est de dépasser le monde de ma tête. Parce que je vois ce que les autres ne voient pas. Je suis un été noir pour mon voisin et je dépasse. Mais c'est purement quantitatif. Parce que mon voisin voit plus que moi, mais il médite beaucoup moins. Il reste uniquement sur les choses extérieures. Dès que ça bouge au sol, hein, ça l'intéresse. Ah, et je pense. Il y a des déterminations essentielles. Je suis un homme. Je suis une femme. C'est essentiel, ça. C'est pas accidentel, non, c'est capital. Alors, j'arrive en me posant la question toujours, qu'est-ce que c'est que l'être dans sa détermination? Je vois ses déterminations multiples, mais dans sa détermination première, qu'est-ce qu'il est? C'est cette détermination première que je cherche. J'aboutis à voir le sujet et sa nature essentielle. Les deux points ultimes, le sujet. Rien n'existe en dehors de mon sujet. La quantité, elle existe par rapport à un sujet. La qualité, elle existe par rapport à un sujet. L'action, elle existe par rapport à un sujet. La passion, par rapport à un sujet. Tous les prédicaments n'existent que par rapport au sujet. Et le sujet, alors qu'est-ce qu'il est? Il est homme. J'arrive à ces deux premiers. C'est ce que Aristote nomme la substance sujet, la substance nature. je suis un homme. Alors je peux m'arrêter à ça. Je suis un homme, c'est... pour moi c'est capital. Hein. Je suis un homme, c'est capital. Parce que quand je ne serai plus un homme, je ne peux rien dire. Et toutes ces déterminations colorent, déterminent l'homme qui est en moi. Le poids, la grandeur, l'intelligence, l'amour, ça détermine le sujet qui est moi. J'arrive donc à ces deux premiers, et je crois cela très important, à ces deux premiers, le premier dans l'ordre existentiel, j'existe, je suis le sujet de tout cela. Le premier dans l'ordre d'intelligibilité, de détermination. Je suis un homme, un animal très particulier, parce que je me pose la question de savoir qui je suis. Un animal ne se pose pas du tout la question ce qu'il est. Il est. Tandis que je peux me poser cette question, qui je suis. Il y a donc deux premiers. Et ça, je crois que tous nous pouvons le saisir. Hein. Et c'est très important. Il y a deux premiers. Le premier est dans l'ordre du sujet existant. J'existe. Je suis. Je suis quelqu'un. Et le premier, dans l'ordre de la détermination intelligible. Je suis un homme. C'est l'intelligibilité de ma nature. Donc il y a un premier dans l'ordre intelligible et un premier dans l'ordre existentiel. Puisque il y a deux premiers, ça prouve que ce n'est pas le premier dans l'ordre de l'être. Puisque l'être est premier. En dehors de l'être, il y a du non-être. L'être est premier. Donc si l'être est premier, je veux savoir qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Ces deux premiers ne peuvent pas être premiers. Ils sont deux déterminations capitales, très importantes. Il faut aller plus loin. L'être. Il existe dans ce sujet. L'être, il existe dans cette intelligibilité d'être un homme. Donc, il y a l'être du côté intelligibilité, il y a l'être du côté existentiel. Et l'être est au-dessus de cela. Une fois que j'ai découvert ces deux premiers, je me pose la question, au-delà de ces deux premiers, il y a la substance. C'est très curieux. Le sujet est substance, mais substance seconde. L'intelligibilité est substance. Substance qui n'est pas ce qu'il y a de tout à fait premier, parce que cette intelligibilité, elle existe. Mais elle n'exprime pas ce qu'il y a de tout à fait premier, puisque ce qui est tout à fait premier s'exprime à partir de ce qui existe. Et quand j'ai ces deux premiers que je peux saisir facilement, saisir l'au-delà dans l'ordre de l'être, le premier existant, le premier déterminant. Je saisis le principe de l'être. Le principe de l'être, donc ce qui est premier dans l'ordre de l'être, c'est la substance. La substance, elle m'est donnée à travers le sujet, elle m'est donnée à travers l'intelligibilité de ce premier. Et donc, il y a un au-delà que mon intelligence saisit. Il y en a un au-delà du sujet, un au-delà de son intelligibilité. Il y a quelque chose de premier. Et ce quelque chose de premier, c'est justement ce que j'appelle la substance. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être et qui détermine tout. La substance, c'est un principe d'être dans l'ordre de la détermination. Et que je saisis comme un au-delà du sujet, comme un au-delà de la détermination. Je le saisis par le sujet, par l'intelligibilité, comme un dépassement. Et il est premier dans l'ordre de l'être, premier selon le